Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Bien, nous abordons à présent notre premier thème du jour. Nous parlons des savanes de la RDC. Vous savez, les savanes ne cessent de gagner, la savane ne cesse de gagner du terrain dans certaines parties du pays. C'est le cas par exemple à Luozi et à Matadi, aux alentours de Matadi, dans la province du Congo central. La savane est en train de prendre du terrain, et dans la périphérie de Kinshasa, au plateau du Bateke, à Mangengenge. Voilà, tous ces endroits sont vraiment entourés par la savane, et le même constat est fait dans les deux Kasaï, d'après les spécialistes, et cela a des conséquences évidemment sur le climat et les rendements agricoles et sur l'élevage. Alors, comment peut-on arriver à valoriser toutes ces savanes qui prennent place, qui prennent du terrain dans certaines provinces du pays, dans certaines parties du pays? Franck Bissiro est expert en agroforesterie villageoise à la Fondation Saïdel. Encore une fois, bonjour.
Bonjour. Alors, à tous.
On parle de la savane. C'est, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par savane?
Bon, on entend par savane tous ces espaces qui sont occupés par des essences herbeuses, et donc où il n'y a pas d'arbres ou très peu d'arbres. Il y a aussi des savanes arborées. Et il faut savoir que la grande partie du sud du Congo, plus de 50% du territoire de la République démocratique du Congo, est occupée par cet écosystème que nous appelons savane. Il faut comprendre aussi que, en opposition à la savane, on parle de la forêt. Et il est important de comprendre quels sont les systèmes qui amènent la forêt à régresser par rapport à la savane. Il y a eu des époques où la savane, naturellement, dominait la forêt, et d'autres époques climatique où la forêt reprend son droit sur la savane. Aujourd'hui, avec l'intervention humaine, effectivement, la savane s'agrandit au détriment des espaces forestiers. Et c'est important de comprendre pourquoi. La première cause de déforestation, il faut le rappeler et l'avoir toujours en tête, c'est bien sûr l'agriculture. C'est la recherche de terres fertiles. Et autour des grands centres urbains, comme vous l'avez souligné, c'est aussi la recherche de bois énergie. Notre fameux Makala, qui autour de Kinshasa a déforesté plus de 200 km de rayon autour de la ville.
C'est pareil, c'est ça qui fait progresser la savane.
C'est ça qui fait progresser la savane. La déforestation n'est pas irréversible si c'est comme autrefois, les populations exploitaient la forêt pour faire de l'agriculture et les villages se déplaçaient pour laisser le temps à la forêt se régénérer. Mais aujourd'hui, la pression tant en bois énergie qu'en matière vivrière agricole est tellement forte sur les grands centres urbains, avec la démographie galopante, qu'on laisse plus le temps à la forêt se régénérer, et là on parle de savanisation effectivement des zones anciennement forestières.
Voilà, la savanisation des zones entièrement forestières. Et on a cité quelques régions où la savane a pris du terrain. Est-ce qu'il y a, il y en a d'autres?
Oui, il y a le Kasaï aussi, Mbujimaï, on parle de Mbujimaï. Mbujimaï, la forêt équatoriale à plus de 100 km aujourd'hui de la ville de Mbujimaï, est en train de se réduire comme une peau de chagrin uniquement pour répondre au bois énergie de la population de Mbujimaï. On parle de Kinshasa, vous avez parlé de Matadi. Matadi, c'est aussi un gros problème de bois énergie. La forêt du Mayombo est très très sollicité, du Mayombe pardon. Et donc il faut trouver effectivement une nouvelle source de bois énergie et puis une nouvelle source de ressources agricoles vivrières, et effectivement ça doit se faire en savane.
Ça doit se faire en savane. Alors maintenant que la savane a pris du terrain, mais est-ce qu'on a une idée de la superficie, la dimension
Les dimensions exactes, je les ai pas en tête, elles sont très connues par le ministère de l'Environnement, mais c'est plus de 50% du territoire du pays, comme je le disais, qui est occupé par la savane, et il faut savoir aussi que ce sont les zones les plus peuplées. Donc c'est la population qui a besoin de ressources, et cette population habite en majeure partie dans des zones savanicoles. Donc la question est de savoir comment fournir le bois énergie à cette population, et comment surtout fournir tous les vivriers pour nourrir cette population.
Voilà. Bien, donc la savane a pris du terrain, vous avez dit, à cause de la recherche du bois énergie, le makala et les activités agricoles. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence? La forêt a été repoussée maintenant pour que la savane prenne place. Alors qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence?
Bon, on parle au niveau mondial, bien sûr, il y a une grande pression. C'est un phénomène dont on parle par rapport au réchauffement climatique. Effectivement, les forêts naturelles sont des endroits de ressources de carbone pour limiter le gaz carbonique dans l'atmosphère et éviter le réchauffement climatique global. Mais je pense qu'avant tout, ici au Congo, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui induit effectivement les diminutions des zones forestières? C'est effectivement une diminution des ressources pour la population, donc ça conduit à une paupérisation globale de la société. Donc il faut trouver une alternative rapide et efficace, mais surtout durable, pour pouvoir répondre aux besoins de la population qui grandit chaque année, nous le connaissons.
Voilà, cela entraîne une diminution des ressources. Alors comment valoriser aujourd'hui la savane pour que la population continue à trouver les ressources dont elle a besoin?
Alors voilà, il y a deux choses. Donc il y a le bois énergie, on le disait, et les ressources agricoles. La première initiative revient au ministère de l'Environnement qui, depuis les années 80, s'est intéressé au plateau Bateke, a essayé de boiser. On ne parle pas de reboisement, puisque au niveau climax, c'est une savane naturelle, mais à boiser des zones de savane avec différentes essences arboricoles. Et il y a eu des premières expériences faites au centre forestier de Kinzono par le ministère de l'Environnement depuis le début des années 80 qui a permis de déterminer une essence favorable qui est bien sûr l'acacia acriliformis. Une essence qui vient d'Australie, qui aujourd'hui est un peu commune partout dans le pays, mais il faut savoir qu'elle est exogène et c'est une initiative du ministère de l'Environnement de l'avoir importée au pays.
Donc avec l'acacia, on peut aujourd'hui valoriser.
Alors aujourd'hui, on a développé des projets. Il y a eu un premier projet, Mampou, oui, qui a été développé sur 8000 hectares dans les années, fin des années 80, début des années 90, et qui a été repris par la fondation Insider ensuite pour en faire non plus un projet industriel, mais un projet de développement durable au profit des populations. Et c'est dans ce projet qu'on a pu mettre au point le système de durabilité. Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroforesterie. La République démocratique du Congo accueille un projet qui fait parler de lui sur tout le continent aujourd'hui, c'est l'agroforesterie avec acacia acriliformis, puisque on a démontré que l'association avec l'agriculture et la plantation de cette essence permettait une durabilité avec régénérescence de la forêt après exploitation, grâce à l'agriculture et une agriculture plus performante qui profite de la fertilisation du sol par l'acacia.
Voilà, donc grâce à l'agroforesterie, on peut aujourd'hui revaloriser nos savanes. Alors, mais qu'est-ce qu'on trouve dans ce projet d'agroforesterie, à part les acacias qu'on a plantés?
Alors, faut comprendre que l'acacia est une espèce légumineuse, sans entrer trop dans la technique, ça veut dire qu'il fixe l'azote atmosphérique pour le redistribuer au sol. L'azote fait partie des trois éléments importants des engrais qu'on utilise habituellement dans l'agriculture. Et la carbonisation après coupe des arbres du bois pour faire du makala permet aussi d'enrichir le sol en potassium, qui est également un des trois éléments importants en agriculture. Donc, il reste le phosphore. Mais aujourd'hui, à Mampou, après trois rotations d'exploitation des arbres, suivies de plantations agricoles telles que le maïs, le manioc ou d'autres légumineuses, comme le haricot, le niébé, le riz aussi, c'est très possible, on a vraiment une valeur ajoutée importante. Surtout que on a retrouvé un sol de type forestier qui ne demande pas une intervention mécanique pour le labour. Donc il y a une rentabilité économique certaine. Donc une durabilité pour les populations villageoises et une appropriation à 100%. C'est ce projet Mampou qui
mais
nous permet aujourd'hui.
Ce projet devait aussi être, disons, expérimenté au Kassai.
Bien sûr, non, on a déjà expérimenté le système acacia sur savane au Kassai, notamment autour de Bujimaï, dans un projet Union Européenne également, parce qu'il faut souligner que Mampou a été financé 100% par l'Union Européenne. Et les projets qui développent l'agroforesterie, la plupart aujourd'hui, sont financés par l'Union Européenne. Et souvent entrepris par la fondation Insider qui a permis de développer ce système avec la population.
Voilà. Et on parle d'un autre projet dans le monde d'Ondundio pour valoriser la savane.
Alors, je vous reprends, si on n'est pas dans le monde d'Undu, mais dans la commune de Maluku, c'est-à-dire dans la province de Kinshasa.
D'accord.
Et qui effectivement veut mettre en valeur les expériences de Mampou.
Toujours à Kinshasa, mais il y a un autre projet, pareil.
Il y a également la fondation Insidel, mène un autre projet d'agroforesterie encore, dans le Bandundu, dans le sud de la province de Bandundu, aujourd'hui qu'on va appeler le Maïdombé. Non, c'est pas le Maïdombé, c'est le Kwilu, pardon.
D'accord, allez-y.
Donc le sud de Gungu, où on développe aussi de l'agroforesterie villageoise. C'est qu'on accompagne 40 villages à avoir des communautés qui s'engagent dans l'agriculture en savane, tout en introduisant l'acacia dans les rotations. C'est qu'on les aide à cultiver avec des tracteurs, à labourer la terre. On les aide avec des semences améliorées pour avoir une agriculture un peu plus performante. Mais chaque surface labourée est systématiquement colonisée par des acacias issus des pépinières que les villageois mènent eux-mêmes.
Voilà. Donc il faut, ces projets, il faut absolument commencer par planter les acacias. Et avant de développer d'autres activités agricoles.
Il faut commencer par une activité agricole traditionnelle. Il y a aussi des progrès à faire dans l'agriculture, notamment en semences. Au niveau, à l'intérieur du pays, les agriculteurs manquent beaucoup de matériel amélioré pour cultiver. Que ce soit le manioc ou le maïs ou d'autres cultures, il y a un cruel défaut de semences. Donc avant de parler d'agroforesterie, il faut parler d'agriculture. Mmh. Et donc il y a un effort à faire au niveau agricole pour aider les populations agricoles à trouver des semences. Ensuite, une fois que les parcelles agricoles sont mises en place en savane, il faut l'associer à l'acacia. Dès que l'acacia va grandir en même temps que la culture est récoltée dans la première année ou la deuxième année, et ensuite le sol est laissé en jachère et l'acacia va occuper le terrain. Après, le paysan peut revenir sur cette terre pour exploiter l'acacia, donc avoir des revenus par la vente du charbon de bois, et ensuite retrouver une terre qui n'a plus besoin de labour mécanique pour introduire une nouvelle culture qui aura des rendements multipliés par 1,5, 2, 2,5, sans engrais.
Sans engrais. Comment valoriser les savanes de la RDC? Franck Bissiot, expert en agroforesterie villageoise à la Fondation Insidel, et notre invité aujourd'hui, Nassor Moussa, nous appelle des Kindou. Vous voulez également participer? Composez les 081 890 63 94.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Comment valoriser les savanes de la RDC? Franck Bissiot est notre invité aujourd'hui. Nassor Moussa nous appelle des Kindou dans la province du Maniema. Bonjour Nassor. Quelle est votre question? Oui, vous demandez quelles sont les techniques pour faire quoi exactement?
Sont constatés. Quels sont les conseils que tu peux donner dans ces milieux-là? C'est ça vraiment mes deux questions que je vais poser à l'invité.
Voilà, merci. La communication n'est pas très très bonne, mais on a quand même retenu une partie de votre question. Les techniques pour valoriser les charbons à RDC, Franck Bissiot, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Un auditeur demande la question, quelles sont les techniques? Les techniques sont très simples. Il faut simplement pratiquer l'agriculture telle qu'on la pratique habituellement, mais mener des pépinières vers les points d'eau avec des sachets de polyéthylène ou même des sachets de récupération d'eau vive comme ça se fait parfois, ou mais les sachets de polythène ne sont pas très onéreux, et de mettre en terre et de semer les graines d'acacia. Les acacias existent un peu partout au Congo. On peut récolter les semences sur tous les arbres, même dans la zone urbaine. Il y a beaucoup d'acacia aujourd'hui. C'est un des avantages
c'est
de l'acacia.
C'est beaucoup plus à Kinshasa ou on peut les retrouver
un peu partout
dans
le pays aujourd'hui. Dans toutes les provinces, vous trouvez des acacias.
Okay.
Et donc, on peut récolter les graines. Les graines souvent fleurissent, les arbres fleurissent vers le mois de février. Et les graines... on peut les récolter à partir du mois de mai, juin, ça commence selon les provinces. Donc la ressource en semences n'est pas difficile, il faut simplement semer 3 graines par poquet, arroser pendant 3 mois, désherber, et puis c'est des techniques très simples, mais qui demandent peut-être au début un petit accompagnement d'un animateur expérimenté. C'est pour ça qu'aussi on invite beaucoup, souvent des gens qui travaillent dans les ONG à visiter Mampou pour un peu comprendre cette technique simple. Et après, il suffit de... Vous avez une culture de manioc, une culture de maïs, il faut implanter la culture et tout de suite derrière, planter les jeunes acacias. Et c'est à 3 mètres par 3 mètres, 3 mètres par 4, selon les densités souhaitées. Et après, les acacias vont profiter du sarclage, de l'entretien de la culture, donc vont avoir une croissance rapide. Au bout d'un an, vous avez des arbres qui ont plus d'un mètre de haut, donc vous avez déjà un marquage du sol. Et là où est important l'agroforesterie en savane, il y a une certaine appropriation de fait de l'agriculteur du terrain.
Voilà. Et Antio, on peut dire que c'est le même projet qui a été dupliqué.
Antio, on a le même projet. Bien sûr, on essaye toujours d'améliorer un peu le système parce qu'un système n'est pas jamais parfait. Mampou était une première expérience. Antio, mais nous sommes toujours basés sur de l'agroforesterie villageoise avec acacias. C'est-à-dire que tous les acacias sont plantés dans les champs par les agriculteurs. Maintenant, nous avons une pépinière centrale où on multiplie d'autres essences ligneuses pour planter en bordure des parcelles, pour planter sur les pare-feux. La lutte contre les feux en saison sèche, c'est un souci permanent chaque année pour l'agroforesterie. Nous recherchons des solutions avec l'association avec de l'élevage, par exemple, pour faire du pâturage en pourtour de zones boisées et aussi des petits élevages. L'important, c'est que l'agriculteur habite sur sa parcelle. Parce que l'habitation plus les petits élevages domestiques contribuent également à fertiliser le sol. Les sols de savane sont souvent très sablonneux en RD Congo. Donc il faut un apport permanent de matière organique. L'acacia est là pour restituer ses feuilles pendant toute sa croissance. Mais un apport aussi avec d'autres essences et de l'élevage est aussi important.
À part l'acacia, quelles sont les autres essences que vous pouvez recommander?
Bon, bien sûr, on essaye. Nous sommes dans des projets de sécurité alimentaire, donc de planter des arbres fruitiers autour des zones d'habitation, en sachant que chaque parcelle agricole a un sous de 17 hectares attribué à une famille. La famille habite sur une maison construite sur la parcelle. Et donc, autour de cette maison, on encourage la plantation d'arbres fruitiers, mais on a également des arbres de forêt, parce qu'on nous reproche souvent de travailler qu'avec des essences exotiques. Donc, on a du mésopsis pour limiter les parcelles qui seront exploitées en une année. Dans la prochaine rotation, nous plantons des mésopsis, qui est un arbre qui vient des forêts du Congo. On a bien sûr du moringa, parce que le moringa, c'est une source de protéines. C'est aussi un arbre très à la mode, et c'est à raison, parce que c'est un arbre qui pousse rapidement et qui est intéressant. On a aussi d'autres essences d'acacia, qui sont des légumineuses aussi, toujours pour fertiliser le sol le plus possible.
Bien. Chris Mutombo nous appelle de Kinshasa. Bonjour. Chris, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Il n'est plus là. Gaël Diction nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour, je suis à notre invité.
Quelle est votre question, Gaël?
Ok, j'aimerais juste demander à notre invité si tout simplement nous remercier par rapport à la question du jeu, par rapport à la thématique du jeu. Parce que tout ce qui nous parle de la savane, parce que moi, justement, je n'arrête pas à distinguer la savane de la forêt. Et c'est pour ça que je demande cette question s'il peut nous donner avec des exemples concrets. Et ensuite, parce qu'il parle aussi de la reboisement des savanes, est-ce que si dans les savanes il y a des bois, il y a des arbres, si on découpe, ça peut entraîner aussi la pollution de l'environnement? Ce sont les deux questions que j'avais à poser.
Oui, on n'a pas bien compris la deuxième question. Pouvez-vous la reprendre?
Et la deuxième question, je dis que s'il y a reboisement de la savane, si les gens reboisent la savane et les autres parviennent à déboiser la savane, donc ça peut entraîner aussi la pollution de l'environnement.
D'accord, merci. Franck Missio, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, ben, à notre ami de Lubumbashi, je voudrais d'abord lui dire qu'il y a un projet d'agroforesterie important aussi, financé par l'Union européenne autour de Lubumbashi, mené par le GRET, qui est à FODEC, qui est un projet qui essaye de développer justement...
Il est déjà en cours?
En cours, oui, depuis 3 ans. Et effectivement, le milieu naturel est un peu particulier. La différence entre la savane et puis la zone forestière est un peu difficile à comprendre dans cette zone, parce que c'est la forêt du Mayombe et qui est un peu une savane arborée. C'est une forêt, mais quand même avec des essences herbeuses, graminées. Mmh. Donc on est sur un intermédiaire. Donc effectivement, le déboisement, comme se soucie cet auditeur, de ces zones de savane arborée est également une destruction de l'environnement. Parce qu'une savane arborée est également un milieu naturel qu'il faut protéger. Le Mayombe en est un bon exemple, il faut vraiment le protéger. Alors le mieux, c'est de faire des plans de gestion qui puissent déterminer les zones agricoles et les zones de conservation. C'est important, ça revient, je pense, plus aux autorités provinciales de déterminer où peut-on faire de l'agriculture, où doit-on garder des zones de conservation, et pour Lubumbashi aussi, où réserve-t-on les zones d'exploitation minière. Parce que tout ça vient en concurrence. Donc il faut un zonage pour préserver l'environnement, tout en donnant à la possibilité à la population de se nourrir et de se chauffer. Alors... Le déboisement, ben c'était son souci, je pense. Effectivement, oui, il faut lutter contre le déboisement.
Il savane. Veut également savoir la différence qu'il y a entre la savane et la forêt.
Bon, il y a des intermédiaires. Hein, ce qu'on appelle un climax, c'est-à-dire la fin naturelle de l'évolution d'un milieu. Bon, on peut appeler encore savane à partir du moment où on trouve encore des graminées, c'est-à-dire les matitis. Vous avez encore des matitis, hein, des essences herbeuses graminées sous les arbres. On peut encore parler de savane arborée. À partir du moment où vous ne trouvez plus sous le couvert des arbres d'herbe, c'est-à-dire que vous êtes vraiment en forêt. Mais encore une fois, la frontière n'est pas, les environnementalistes peut-être peuvent préciser plus, mais n'est pas franche. Mais justement, l'importance de l'acacia pour l'agriculture, c'est que l'acacia, sur 8 ans de croissance, élimine totalement ses graminées, ses matitis. Donc,
et l'acacia permet de recréer la forêt, en quelque sorte, si on peut le dire.
On peut pas appeler une plantation d'acacia une forêt. C'est une plantation. L'acacia est une jachère verte pour l'agriculteur. Elle donne les ressources de la forêt. Pour la plupart, notamment le bois énergie, notamment la fertilisation du sol.
Mais elle ne recrée pas
la forêt, c'est Dieu qui l'a faite, on ne va pas la recréer. Si on veut la laisser recréer une forêt naturelle, il faut effectivement abandonner l'exploitation. Par contre, oui, l'acacia, des zones déforestées qui ont été savanisées, si on y replante de l'acacia, mais qu'on laisse l'acacia occuper le sol pendant plus de 10 ans, on va voir les essences d'origine naturelle revenir. Donc, même si les gens de l'environnement sont pas toujours très d'accord avec ça, mais malgré tout, l'acacia est un moyen de retrouver les forêts d'antan, les forêts de nos ancêtres, en laissant de l'acacia recoloniser le sol, et après, les essences naturelles vont revenir spontanément.
Bien, nous avons en ligne Soupi Niembo de Kalima, au Maniema. Bonjour Soupi.
Bonjour Jeudi, bonjour à tout le monde. Le sujet est vraiment pertinent parce que je me souviens, monsieur Jeudi, un temps de ma vie, de mon enfance, j'avais fait 5 ans à la brousse. Je constate qu'à ce temps-là, il y avait des temps où les gens qui faisaient les pièges et la pêche, ils allaient à la forêt sous forme de maquis et ils attrapaient, par exemple, 5 bêtes par jour ou 3 bêtes par jour. Mais en ce moment-ci, je vois qu'il y a un changement parce que les gens qui vont au maquis pour piéger, avec les bêtes là, on ne trouve rien. Quand on part pour regarder les pièges, par exemple, vous allez seulement trouver une bête ou quoi. Et pour ce qui est de la pêche aussi, c'est la même chose. Dans les temps anciens, on constatait qu'on trouvait beaucoup de poissons quand on faisait des maquis aussi pendant la nuit.
Alors, quelle est la question? Quelle est la question que vous adressez à l'invité? Allez-y rapidement.
Oui, la question, donc, c'est sous forme une préoccupation dont je vois qu'il y a seulement un changement à la période ancienne et à la période présente.
Merci beaucoup. Merci. Papy Kalema, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Jody, bonjour, tu l'as invité.
Quelle est votre question?
Ma question est celle-ci. Chez nous, beaucoup de savanes, surtout au nord Maniema, dans notre territoire de Kibongo. Le constat que les villageois, ou bien les paysans et les paysannes, n'utilisent pas souvent les savanes. Lorsqu'ils font les travaux champêtres, ils ont Bon, moi je voulais te poser une question à notre invité, en disant ceci. Est-ce que les sols de savane, ont une fertilité que ceux de la forêt? Parce que chez nous, c'est comme si les sols de savane ne contiennent pas de fertilité que ceux de la forêt. Parce que la forêt est beaucoup utilisée que la savane. Et est-ce qu'il y a des conséquences néfastes lorsque on brûle la savane? Parce qu'il y a souvent un usage chez nous là-bas, quelqu'un peut venir avec l'allumette, il brûle la savane et il part comme ça sans aucun objectif à atteindre. Est-ce qu'il y a des grandes conséquences lorsque on brûle la savane? Voilà un peu les petites questions que j'avais à poser à notre invité. Merci beaucoup.
Merci papy. Il nous dit qu'à Kibombo, il y a aussi la savane de l'autre côté. Alors il veut savoir si la savane garde aussi à la est fertile par rapport à la forêt. Bon, est-ce que cette terre est fertile?
Bon, toute terre est fertile plus ou moins selon les différents types de terre. On n'appelle jamais un sol pauvre. Tant qu'il vous donne quelque chose à cultiver, un sol n'est pas pauvre, un sol est toujours plus ou moins fertile. Alors effectivement, la comparaison entre le sol de la savane et le sol de la forêt, au niveau géologique, ce sont les mêmes sols. La différence dans les forêts, c'est que le sol a emmagasiné toute cette matière organique qui a redistribué la forêt pendant des décennies, des siècles. Et donc on a ce poteau-poteau, cette terre humifère, qui donne la fertilité, après, si on déboise, à l'agriculture par minéralisation de cette matière organique. Mmh. Donc les sols de savane sont les mêmes. Ce sont des sols sablonneux, souvent assez profonds. Et justement, l'acacia est là pour redonner la matière organique à ce sol par toute la chute des
mais
feuilles.
C'est tout de même un sol appauvri hein, par rapport à...
Ce n'est pas un sol appauvri, c'est un sol qui est tel qu'il est. Il ne faut pas se dévaloriser. Le sol du Congo, je peux vous amener des gens du Niger qui seront très contents de trouver les sols des savanes du Bas-Congo ou du plateau Bateke pour les cultiver. Ils vont trouver ça très riche. Mais certes, ce sont des sols sablonneux qui ne retiennent pas trop les éléments fertilisants. Donc il faut régulièrement amener une matière organique qui va se décomposer pour fertiliser le sol. Et c'est un sol qui se lessive, donc il faut un apport permanent. Et justement, l'acacia, les cultures arboricoles sont là pour recréer un sol de type forestier. Alors, notre auditeur parlait du brûlage. Mmh. Effectivement, le brûlage est une méthode ancestrale parce que en brûlant les matitis qui occupent la savane, il y a effectivement, par les cendres, libération de minéraux. C'est une minéralisation du sol et qu'il faut mettre en valeur directement par une culture tout de suite derrière. Mais dans le système agroforestier avec acacia, nous pratiquons également ce brûlis derrière la coupe des arbres. On pratique un brûlis pour enlever toutes les branches et ce brûlis permet de minéraliser une nouvelle fois encore le sol, mais surtout aussi de lever la dormance des graines d'acacia qui sont dans le sol depuis la culture des acacias qui sont tombées naturellement. Mmh. Et ces acacias vont renaître par leurs graines grâce à ce brûlis. Sans ce brûlis, il n'y a pas régénération de la population d'acacia.
Et pourtant, de plus en plus, on décourage l'agriculture sur le brûlis.
L'agriculture
à cause des effets néfastes sur l'environnement.
Elle est plus ou moins néfaste si elle est faite au mauvais moment, en saison sèche, mais c'est une méthode ancestrale. S'il n'était pas bonne, on ne l'aurait pas pratiquée depuis des siècles. Mais elle doit simplement être raisonnée. Faite au bon moment, après un retour des pluies, quand le sol est assez humide, la matière organique qui recouvre le sol est suffisamment humide pour ne pas brûler.
Comment valoriser les savanes de la RDC? Bienvenue, vous êtes à Kikuit et Papi à Kinshasa. Bienvenue, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
J'aimerais savoir si l'activité agricole effectuée dans la savane peut-elle être vertueuse?
Oui, et pouvez-vous répondre à la question?
Oui. Oui, j'aimerais savoir si l'activité agricole exercée dans la savane, si elle peut être vertueuse.
Si elle peut être comment?
Fructueuse. Est-ce qu'elle peut donner un bon rendement?
Oui, l'agriculture en savane peut être fructueuse, je pense que c'est là la question, ouais, oui. Bien sûr, mais elle est fructueuse sur une première rotation en sol d'ouverture, mais après le sol s'épauvre très vite, parce qu'on le disait, ce sont des sols sablonneux, mais en y plantant d'acacia, au deuxième retour, on laisse en jachère 5, 6, 7 ans le temps que l'acacia puisse pousser pour donner suffisamment de bois pour la transformation du bois énergie, là il y a un revenu économique important pour l'exploitant, mais aussi... il y a un enrichissement du sol, comme on le disait en début d'émission. Mmh. Donc oui, l'agriculture en savane, c'est la solution. Ça peut être fructueux, mais à condition que ce soit bien raisonné.
C'est la solution pour valoriser la savane.
Avec de l'agroforesterie, justement. Planter, associer des arbres à votre agriculture en savane, et demain, vous aurez des rendements supérieurs. Il y a aussi un aspect important, c'est l'aspect foncier. Donc planter des arbres en savane, il faut effectivement une bonne entente avec les chefs de terre. Mais aujourd'hui, je pense que avec la Fondation Insider, on a fait un grand travail et nous continuons à faire un travail pour sensibiliser tous les gens qui ont à gérer la loi foncière, et notamment les chefs coutumiers. Et c'est un moyen de planter des arbres, c'est un moyen pour une famille de s'approprier un lopin de terre sur du long terme.
Papy, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Radio Papy.
On vous écoute.
J'ai deux questions. La première, l'invité fait voir qu'il faudrait reboiser justement les zones savanicoles et que avec l'acacia et que par la suite, on peut se servir de ces acacias pour en faire des makalas. En cela, il y a pratiquement la carbonisation qui est généralement décriée. Et donc, je voudrais lui demander comment est-ce que l'on peut gérer l'exploitation de ces acacias sans pour autant dépasser les limites par la population. La deuxième question, par rapport à ces zones savanicoles, que dire des projets industriels que l'on peut concevoir justement pour les placer dans ces zones, parce que nous avons quand même des grandes étendues savanicoles qui ne servent pratiquement à rien et pourtant des projets industriels peuvent aussi être servir dans ces milieux-là.
D'accord, merci. Franck Vision.
Oui, la question est très intéressante. Alors, je prendrai son début. La carbonisation, non, la carbonisation n'a pas de méfait. Et la carbonisation est méchante si elle est faite de façon non raisonnée sur des forêts naturelles, comme on le voit encore dans beaucoup de massifs qui restent, notamment autour des grands centres urbains. Par contre, la carbonisation, je le disais, si elle est faite de façon traditionnelle avec du bois d'acacia, à Mampou, il y a toute une technologie qui s'est développée que les gens maîtrisent très bien, en faisant des petites meules répartie sur tout le champ, c'est une source de fertilisation. On voit à l'endroit des meules, on voit la culture qui profite bien mieux qu'ailleurs. Donc c'est une source de fertilisation en potasse. Mmh. Alors, je pense pas qu'elle soit décriée. Par contre, il faut les limites, effectivement. Il faut que l'exploitant, même dans une plantation d'acacia, il faut se limiter à tant d'hectares par an en fonction de la surface qu'on a disponible pour pouvoir chaque année avoir des revenus. C'est le raisonnement, c'est ce que nous enseignons aux gens qui sont encadrés dans les cadres des projets d'agroforesterie.
Bah, il affirme qu'on a des grandes étendues.
Alors voilà,
des savanes.
Les grandes étendues de savanes, effectivement, au Congo, il y a de grandes étendues de savanes. Alors, il met en relation ces grandes étendues avec le potentiel de projets industriels.
Industriels,
oui. Bon, un des grands avantages de l'agroforesterie agricole, oui, mais oui. Les projets agricoles. Citez-moi un pays où l'agriculture est industrielle. Je n'en connais pas. Par contre, au Congo, il y a un grand problème. C'est quand même l'occupation professionnelle de la population. Mmh. Et ce que nous développons dans les projets d'agroforesterie, c'est un petit exemple, mais qui devrait être multiplié sur tous ces espaces, parce que nous développons de l'agriculture villageoise, de l'agroforesterie villageoise, qui permet, c'est un impact social sur les populations, pour limiter l'exode des populations des provinces vers les grands centres urbains, mais mettre en valeur ces savanes avec cette population qui va trouver une amélioration sociale, c'est très important. Je pense que les projets que nous avons sont l'exemple même de ce qu'il faut faire sur ces savanes. On parlait de ces grands espaces de savanes en début d'émission. Oui, ils peuvent être mis en valeur, oui, mais ils doivent être mis en valeur avec la population, au profit des populations.
Au profit des populations. John Ferruzzi nous appelle des Kindu, au Maniema, bonjour.
Bonjour, Radio Papier, bonjour aux chers invités.
Quelle est votre question, John?
J'ai une petite illustration, un constat qui va sortir d'une petite question. Le constat, c'est celui-ci. Chez nous, à force de beaucoup cultiver, on avait une grande étendue de forêt, mais cette étendue-là se transforme maintenant en savane. Je peux dire en savane, parce que ce n'est pas même une brousse, c'est en savane. Alors, quelle est la méthode utilisée pour recouvrer la forêt? Parce que nous tendons déjà vers des conséquences néfastes. Nous ne trouvons plus de manioc depuis chez nous à cause de cela. Qu'est-ce qu'il faut faire pour recouvrer la forêt? C'est ça ma question.
Franck Vizio.
Oui, ben moi je dis effectivement, si vous avez la forêt a disparu et puis que le manioc, la coupe de manioc devient difficile. Mais voilà, planter des acacias. Mais pour planter des acacias, il faut effectivement une distribution des terres à la population villageoise. Il faut l'implication de vos chefs pour qu'ils puissent donner effectivement des lopins de terre de 10, 15, 20 hectares à chaque famille. Parce que si vous cultivez un champ de manioc pour rendre la terre, restituer la terre à quelqu'un d'autre au bout d'un an, deux ans de culture, vous n'êtes pas encouragé à planter des arbres. Donc il faut un changement des comportements sur la distribution des terres. Et ces terres, encore une fois, doivent être distribuées par les chefs de village, par la population, par les autorités provinciales qui doivent s'impliquer pour que les familles puissent s'impliquer à long terme sur un lopin de terre et on créera une richesse qui va profiter à tout le pays. Contrairement à des grands projets agricoles où, de façon agronomique, je ne vois pas d'issue sans recourir à de l'engrais systématique qui, on le sait, coûte
alors,
très cher au pays.
Franck Vizio aussi, il y a des personnes intéressées, par exemple, à ce projet d'acacia. À qui faut-il s'adresser immédiatement pour parler?
Non, je pense que l'agroforesterie est un sujet, heureusement, devenu à la mode au Congo, mais je pense aussi sur tout le continent. Il y a beaucoup de bailleurs qui s'intéressent. Il y a là aussi la zone pilote RED en République démocratique du Congo qui s'intéresse à l'agroforesterie. Il y a bien sûr l'Union européenne qui est le précurseur du développement de l'agroforesterie. Nous, Fondation Insidel, nous accompagnons les populations villageoises qui veulent se lancer dedans avec l'aide bien sûr de bailleurs. Mais j'invite les gens qui habitent l'ouest du pays à visiter les projets notamment de Mampou, où aujourd'hui Mampou est une réalité économique qui se développe par elle-même sans financement et qui est gérée par l'organisation des fermiers qui ont été implantés lors du premier projet. On a d'autres projets à Gungu. J'ai parlé aussi du projet AFODEC de l'Union Européenne à Lubumbashi, qui est aussi un exemple dans un milieu naturel un peu différent.
Bien, Franck Vizio, expert en agroforesterie villageoise à la Fondation Insidel, merci.
Merci à tous.